che gran specchio mi si presenta dinanzi agli occhi. Io in questo specchio vedo il sole tutto infuocato, arrostire uno spiedo di ghiaccio, quel traditore del principe del Marocco, per aver rubato un gallo, una gallina all'osteria del Moro. Prendete del lardo vecchio, pergottatelo ben bene e datelo da mangiare una brigata d'astomi. Su, su, cavalier d'onore, di qui si salta il periglioso varco. Questa è la vera via dei mestri di Marghera, ove entro era la caldara dei maccheroni e le brache del Gonnella, sapientissimo filosofo.
Quand j'aurai un enfant, la première chose que je lui dirai sera de se méfier de moi et de son père, et je lui le répéterai chaque jour, de chaque mois, de chaque année de sa vie, jusqu'à ce qu'il se soit débarrassé de ce stupide instinct infantile qui nous incite à confier notre vie à la première personne qui nous flatte avec 4 caresses et 2 baisers. Une personne qui, par un pur hasard, est un parent, mais qui pourrait être n'importe qui. Nous nous prendrions d'affection pour lui de la même façon, et de la même façon nous lui confierions notre vie, parce que nous sommes des chiens à la recherche d'un maître qui nous cajole, nous donne des coups de bâton et surtout nous protège. Mais qui nous protégera du maître? Un autre maître dont nous devrons nous protéger, puis viendra encore un autre maître, puis un autre maître à nouveau, et nous ne serons jamais à l'abri tant que nous ne comprendrons pas que la vie est trop importante pour être confiée à l'arbitraire d'une personne qui ne soit pas nous-mêmes. Quand elle écrit ça à 19 ans, en fait, je trouve que c'est effectivement assez violent, ça, par exemple. C'est à la suite, justement, de ce qui se passe avec son oncle, quand on lui révèle, ou en tout cas, quand on lui apprend que c'est quelque chose de très grave, ce qu'il a fait, elle va décider d'aller le raconter. Elle va d'abord le raconter à la grand-mère, et les parents l'apprennent. Elle peut, suite à ça, la grand-mère meurt. Alors non seulement les parents, effectivement, ne la croient pas, ou en tout cas ne sont pas du tout solidaires avec ce qu'elle a vécu là, mais en plus on l'accuse d'avoir fait mourir la grand-mère avec ça, ce que je trouve aussi assez violent. Mais ouais, voilà ce que je veux dire.
Il y avait aussi un passage, Evelyne, qui t'avait plu particulièrement, que tu avais encore envie de nous lire.
C'est-à-dire, c'est pour faire une description peut-être du milieu physique dans lequel vit Aneta. Quelle est sa maison au fond, et sa maison dont elle n'est pas fière d'ailleurs. Et elle fait cette description au moment où elle va recevoir chez elle Angelina, la fille de l'ingénieur, qui va lui apprendre sa profession de putain et l'inviter chez elle pour une fête. Et comme ses parents n'accepteraient jamais qu'elle aille chez Angelina, elle est obligée d'utiliser un subterfuge. Tout ça l'a fait décrire sa maison. Et voilà comment elle la décrit. Tout le monde parlait de la splendide maison d'Angelina, de son salon immense avec des tableaux au mur et un lustre de cristal. Et je pensais à ma mère avec son chignon et les vêtements de ma grand-mère, à mon père avec sa chemise longue toute sale de terre, à ma maison. La chambre à coucher avec le grand lit au milieu, l'armoire énorme et le coffre. La cuisine avec la table contre le mur et 4 sièges autour. L'étagère des assiettes qui servait aussi pour les vêtements. Et le four qui enfumait tous les murs. Les cabinets minuscules avec un rideau, car mon père avait cassé la porte d'un coup d'épaule un jour où il y était resté enfermé. Avec la cuvette toujours ouverte, car elle ne possédait pas de couvercle. et le grand baquet en plastique dans lequel nous nous lavions. Le débarras enfin, où se trouvait mon petit lit de camp, et encore heureux que mon frère était en Allemagne, car sinon nous aurions dû nous partager ce minuscule espace comme nous le faisions avant qu'il ne parte. J'avais honte de ma famille, de ma maison, de ce que j'étais. Et je craignais qu'Angelina, en voyant ma réalité, ne change d'idée et ne veuille plus de ma compagnie. Mais je ne pouvais lui expliquer tout cela. L'humiliation de sa robe toute blanche sur le fond de ses murs noircis par la fumée, du vieux four où ma mère s'obstinait à vouloir faire son pain, parce qu'on ne sait pas ce que les boulangers mettent dans le leur au jour d'aujourd'hui.
Si vous aviez l'impression que ce livre, quelque part, pourrait avoir une résonance aussi pour nous en Suisse. Parce que des villages isolés, repliés sur eux-mêmes, avec un poids des traditions, bah, il faut reconnaître que dans les montagnes, par exemple, ça existe aussi, bien sûr. Et est-ce que si on faisait lire ce livre à des familles valaisannes ou hautes valaisannes, suisse-allemandes, perdues dans les préalpes, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver aussi une réaction forte parce que, quelque part, ça les concerne aussi?
Sur la question de l'inceste, certainement, parce qu'il semble que c'est beaucoup plus courant qu'on veut bien l'admettre, en Suisse aussi. Dernièrement, là, on a rendu public pas mal de statistiques ou d'évaluations de la situation, et il semble que beaucoup d'enfants soient l'objet de tentatives, hein, d'inceste au sein de la famille, justement, comme c'est le cas là, comme c'est général, il semble que c'est le cas dans 80% des cas. Dans ce sens-là, en tout cas... Maintenant, moi, j'ai de la peine à juger sur les autres questions. J'ai eu de la peine à... Des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, j'avais de la peine à continuer de lire le livre parce que je ne sentais pas la vérité derrière tout ça, alors qu'apparemment, elle y était quand même. Bon, c'est peut-être pas à moi la réponse.
Moi, je crois en tout cas qu'il y a des rapports à faire, c'est vrai, avec des coins comme le Haut-Valais ou la Suisse
centrale.
Effectivement, où il y a encore des villages dans lesquels ils parlent des dialectes incompréhensibles. Et ils ont effectivement toute une vie entre eux, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai fait comme rapport, ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, pour nous qui vivons ici, c'est justement, tu as lu l'extrait tout à l'heure où il parle de ça, le frère est parti en Allemagne, il parle à un moment donné d'un autre personnage qui part en Suisse. Justement, c'est pour nous ici de voir au fond d'où viennent ces gens et dans quelle situation ils vivent et pourquoi au fond ils quittent leur pays. Et puisqu'elle décrit aussi ça, comment est-ce que eux là-bas les voient ou comment est-ce qu'ils les considèrent? Qu'est-ce que les Siciliens qui sont ici en Suisse laissent comme image là-bas en Sicile? Et quand elle raconte qu'effectivement ils reviennent avec des grosses bagnoles par exemple, effectivement ils sont tous considérés dans ces petits villages là-bas. Alors que, bon, ici, on voit comment est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils sont. Au fond, ça peut donner une bonne image, je trouve, de l'origine, finalement, peut-être des gens qui sont des étrangers qui sont chez nous, des Siciliens.
Moi, je trouvais que c'était un roman très sicilien. Alors, disons, bien sûr qu'on peut toujours trouver des analogies quand une jeune fille raconte sa vie, son enfance, à l'intérieur d'une famille complètement... répressive, des histoires d'inceste, on en trouve partout, pas seulement dans les hautes montagnes, c'est dans toutes les villes et partout. Mais disons, c'est vraiment très imprégné de la Sicile, de ces petites villes siciliennes. Alors, au début, tu citais un interview de Lara Cardella qui disait c'est pas sa vie, elle s'est simplement inspirée de justement tout ce qu'on sent quand on habite et quand on traverse ces villes, de toute cette atmosphère qu'elle connaît sûrement mieux puisqu'elle y habite. Et c'est vraiment de là. Et si on retire ça, je crois que le roman perd tout son intérêt. C'est-à-dire, si on essaye d'en faire autre chose qu'un roman sicilien, c'est plus intéressant. Ça devient quelque chose de... Ça devient un roman misérabiliste à ce moment-là. Il faut vraiment le resituer. Puis alors, ce que tu dis là, je trouve très intéressant parce que ce rapport aussi, justement, avec l'émigration qui est toujours là, parce qu'il y a toutes ces veuves blanches, comme on dit aussi, non, dans ces villages en Sicile, parce que tous les hommes, en plus, non seulement c'est les rois, mais ils ne sont pas là, ils sont partis, ils sont allés travailler ailleurs, alors il y a toutes ces femmes qui les attendent. Alors, ils amènent l'argent, ils amènent la grosse voiture, Et si on le sort de ce contexte, je crois qu'on l'amoindrit énormément. Alors moi, je crois que effectivement, je conseillerais de le lire, si c'est possible, en italien. Volevo i pantaloni, parce que la langue italienne est magnifique et le sicilien est très très beau et très riche. Et puis, et en tout cas, de le lire, peut-être, si on va en vacances en Sicile, pourquoi pas amener ce livre avec nous, quand vous traversez le village, et ben, lire certains passages, ça donnera une autre lumière au paysage qu'on visite.
Alors, c'est l'occasion de dire qu'il est en vente à la librairie L'Inédite, à Carouge, où vous êtes toutes les bienvenues. Et que on espère que vous aurez quand même du plaisir à le lire. Moi, je me demandais si la lecture d'un roman comme ça apportera vraiment de la compréhension sur la situation des Siciliens, même qui sont chez nous. Je me demande si ce serait, il pourrait pas arriver le contraire, qu'au fond on se dise ah ben évidemment, ce sont des sauvages, et que ça peut renforcer aussi une autre attitude, hein, que de mépris ou de dire oui effectivement ces gens-là voyez d'où ils viennent etc. voyez donc on n'en fera jamais des gens comme nous. Alors il y a toujours cette ambiguïté, hein, parce que
non, il faudrait pas non plus. J'attends, c'est l'idée d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, peut-être.
C'est pas si facile d'obtenir
les sauvages, pas, quand même. Hein. La Sicile était un état de civilisation. Quand en Suisse, on grattait encore.
Oui, non, non. Pierre Taillé, mais tu sais que les attitudes intolérantes sont simplistes. Hein.
La civilisation, c'est le plus beau. C'est le plus beau fleuron de la civilisation.
Non, mais c'est vrai qu'il y a bien des chances que des gens s'emparent d'un livre comme ça pour avoir des propos xénophobes, racistes et autres. On le sait bien, c'est malheureusement des choses qui existent. Mais je ne crois pas que c'est le premier réflexe qui vient. C'est de découvrir la réalité d'une région. Et je crois que c'est comme ça, effectivement. Je suis d'accord avec ce que dit Viviane. C'est en fait, on a intérêt à se plonger là-dedans, quoi. Et puis, ma foi, on le ressent comme on ressent. Peut-être que quand on traversera la première fois son village sicilien, moi, je ne suis jamais allée en Sicile. Je suis sûre que le jour où j'irai, je penserai forcément à ce bouquin. Ça, c'est certain. Alors, je crois qu'on va se quitter sur ces bonnes paroles autour de ce livre. Il faut rappeler, donc, peut-être le titre, Evelyne, et puis l'auteur.
Alors, Je voulais des pantalons, de Lara Cardella, aux éditions Flammarion. 140 pages.
Et tu nous rappelles les heures d'ouverture de l'Inédite ?
Et les heures d'ouverture de l'Inédite, tous les matins de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h30.
Moi, je voulais juste rappeler que Laura Cardella a écrit ce livre quand elle avait 19 ans et puis j'attends avec impatience son deuxième roman. La traille sur le mépouge. La traille sur le mépouge. La traille sur le mépouge. Per trimes de fila es quasi tutti di el passeggiava sempre tu ma per vedemmi tu ma per vedemmi tu ma per vedemmi venu el 50 che guerra del
Isabelle, à partir du 7 mai, il va y avoir une quinzaine de cinémas mexicains, un hommage au cinéma mexicain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette programmation magnifique auquel tu as participé et qui aura lieu à l'usine à Genève ?
Oui, alors je voudrais rappeler d'abord que c'est dans le cadre de la quinzaine Amérique latine à l'usine qui va se passer du 7 mai au 19 mai, donc à partir de la semaine prochaine. Un petit bref annonce pour les quelques points forts de la quinzaine, à savoir que le mardi 8, il y aura l'ouverture de la quinzaine avec le chanteur mexicain Carlos Mancilla. Et toute la semaine, les deux semaines en fait, des débats, le mercredi et le jeudi, à savoir le mercredi 9, la question nationale et les minorités indigènes avec Manuel Zapata Olivella. Le jeudi 10, lutte armée en Amérique latine, Suisse sans armée. Le mercredi 16, réforme et révolution. Le jeudi 17, vous avez dit développement avec Bernard Comoli et Virgin Carlson. Le samedi 12, un atelier femmes, lutte et mouvement de femmes en Amérique latine avec des vidéos et tables rondes. Alors pendant toute la semaine, il y aura des concerts, des repas latinos, des bourses, une bourse vidéo, des expositions et des stands des associations organisatrices. Une grande exposition de photographie, c'est le Mexique, vu de Juan Rolfo, qui se tiendra dans le Tébido, souffreur de l'usine. Alors, pour ce qui en est de l'hommage au cinéma mexicain, on a 22 films qui sont du cinéma muet, qui vont du cinéma muet jusqu'aux dernières années, les documentaires qui datent de 1988. C'est vraiment l'histoire du cinéma mexicain, représentée par ces 20 films, avec quelques film très fort, dont effectivement Redes de Fred Zinnemann, ou La Perla d'Emilio Fernandez, ou Memorias de un Mexicano, qui est un film d'une femme qui s'appelle Carmen Toscana, en version française celui-là, parce que pour la plupart ce seront des versions originales. Et quelques Buñuel, le L, La Ilusión Viaja en Tranvía, El Río y la Muerte, et quelques courts-métrages, ainsi que des moyens-métrages, plutôt de type documentaire, dont un qui est réalisé par deux femmes, Elvira Luz Cruz Pena Maxima. Donc, à voir la semaine prochaine, à partir du 7 mai jusqu'au 19 mai. Si vous voulez des programmes, vous pouvez vous intéresser à la rédaction de Radio Zone. Le téléphone, c'est le 022 29 81 04.
Et nous vous rappelons que, bien sûr, si vous voulez soutenir Radio Zone dans toutes ses démarches, que ce soit dans l'organisation d'hommage au cinéma mexicain, que ce soit dans les émissions de radio que nous assumons tous les jours, eh bien, n'hésitez pas à acheter une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 100 francs français ou 30 francs suisses en nous laissant votre nom, votre adresse sur notre répondeur en appelant au 50 40 51 41. 023 depuis Genève, 0033 depuis Delémont ou le restant de la Suisse.
Soleil. Les filles sont moins étonnantes. Les filles, elles nous font de somptueux mélos. 100 000 hommes au minimum et de la plus belle eau.
Est-ce que vous avez reconnu la belle Lio ? Eh bien, on vous la laisse encore pour une chanson où elle vous dit que vivement que je sois une petite vieille. Et je vous dis déjà bonsoir sur Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et à la semaine prochaine.
Quand on est jeune, faut travailler.